Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix qui vous accorde la parole. La semaine passée, le député Paul Mouindo a adressé une question orale avec débat au vice-premier ministre sortant, ministre de l'Emploi sur la sécurité et de l'emploi privé en République démocratique du Congo. Dans sa conclusion, l'honorable député élu de Beni a plaidé pour une enquête urgente sur les emplois des Congolais occupés par les étrangers, le nombre d'emplois créés en République démocratique du Congo, ainsi que les causes d'arrêt irréguliers et en masse de travail dans les entreprises privées. Qu'en pensez-vous? À l'adresse pa@radiocapi.net, rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 7315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'échanger et de partager cette thématique sur notre page Facebook ensemble avec d'autres internautes. Julie Fesa Bongonda est au standard et à la réalisation. Mimi Kindo à la mise en onde de cette émission supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungebo Luabung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
La question du chômage ou de l'emploi en République démocratique du Congo et de ses effets dans notre pays en partant donc des données statistiques communiquées par le gouvernement au mois de mai 2015 a permis à plusieurs analyses, des données de la voix. En effet, le gouvernement avait présenté à l'opinion nationale à cette époque les statistiques sur l'emploi et le chômage dans notre pays. Selon ces rapports, il s'est créé en RDC depuis 2012 100 000 emplois en moyenne chaque année et le taux de chômage en 2014 est de 43%, tandis qu'en 2000, il a été de 67%. Le gouvernement s'est donc félicité de l'évolution du niveau de l'emploi qui s'est traduite par la réduction du taux de chômage et l'inversion de sa courbe. Juste après, les réactions de certains analystes ont balayé de revers de la main ce rapport. Parmi ces réactions, la cinquième tribune de l'ancien premier ministre Adolfo Mouzitou. En conclusion, cette personnalité a déduit que face à la pression démographique et à l'augmentation de la population active, le gouvernement ne pouvait réduire d'aucune manière le taux de chômage les trois dernières années, ni les cinq prochaines années avec notre économie actuelle qui crée 100 000 emplois chaque année. Une année après, c'est au tour du député national de revenir à la charge sur la même question. L'honorable Mouindo Paul a adressé une question orale avec débat, je l'ai dit, à notre sommaire, au ministre de l'Emploi sur notamment la sécurité de l'emploi privé en RDC. Dans sa conclusion, l'honorable député élu de Beni a plaidé pour une enquête urgente sur les emplois des Congolais occupés par les étrangers, le nombre d'emplois créés en RDC ainsi que les causes d'arrêt irréguliers et en masse de travail dans les entreprises privées. Comment commentez-vous toute cette affaire? Nous recevons dans ce studio Paul Mouindo, député national et élu de Beni, auteur de cette question orale. Bonjour, honorable.
Bonjour, monsieur.
Alors, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui vous a motivé, premièrement, à adresser cette question orale au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi?
Oui, bien évidemment, je voudrais d'abord présenter mes condoléances à la population de Beni et de Kainama, qui est de Libéraux, qui actuellement est en Eras. Et je voudrais aussi saluer tous les auditeurs présents et nombreux. J'ai vu les réactions sur la page Facebook de Paroles aux auditeurs. En fait, je suis député national, je suis jeune et je suis citoyen congolais. Je vis cette vie, tout le monde, et j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de familiers, beaucoup de Congolais que je vois tout au long de route qui me posent la question de savoir, honorable député, comment nous pouvons avoir de l'emploi. Et j'observe aussi comment nos citoyens congolais sont chassés par Brazzaville, par Angola, par les États-Unis. Et je vois aussi comment nos Congolais sont maltraités et malmenés dans des entreprises privées que publiques. Et je me dis aussi que beaucoup d'étudiants qui finissent par l'université de Lubumbashi, par l'université de Kinshasa, par plusieurs universités, ces étudiants finissent sans espoir de se dire demain ou après demain, nous allons être embauchés. Et donc, face à cette
désespoir, face à cette ambition de se dire on est déçu, et face aux réponses inadéquates données par le gouvernement congolais, j'étais obligé, avec les pouvoirs qui me reviennent, d'interpeller le ministre, le vice-premier ministre, le ministre de l'Emploi et de l'Emploi social.
Et vous avez même évoqué des chiffres, 2 100 000 demandeurs d'emploi chaque année. Et aujourd'hui, vous, en évaluant ou en faisant les rapports, je pense avec les postes proposés aujourd'hui par le gouvernement, vous êtes arrivé à la conclusion que cela n'est qu'une utopie.
Bien évidemment, lorsque vous prenez les nombres de ceux-là qui finissent les universités au niveau de l'ensemble du territoire, lorsque vous prenez les nombres de ceux-là qui finissent, qui viennent des études supérieures, ceux-là qui viennent des centres de formation, ceux-là qui n'ont pas la possibilité d'évoluer jusqu'au niveau des universités, nous avons le nombre de demandeurs qui atteint près de 2 millions au moins par année. Et lorsque vous considérez cela par rapport au poste créé, il y a vraiment de quoi se dire que la création telle que faite ou telle que prononcée par le Premier ministre à l'époque, c'était vraiment un chiffre fallacieux. C'était ce que moi j'avais qualifié
l'emploi
de mascarade et puis de maquillage de chiffres. Puisque la consommation des 100 000 emplois devait être répartie. Le Premier ministre n'avait pas dit à Kinshasa on avait créé combien d'emplois, à Beni on avait créé combien d'emplois, au Bandundu on avait créé combien d'emplois, au Katanga combien d'emplois avaient été créés, dans quel secteur, dans quelle branche d'activité, cela n'avait pas été dit. Encore que lorsque nous avons écouté le vice-premier ministre, lui-même est parvenu à contredire le chiffre du vice-premier ministre, puisque lorsque le premier ministre dit lui-même qu'il parvient à créer 100 000 emplois, le vice-premier ministre, le ministre de l'Emploi, passe au Parlement et dit que le gouvernement crée en moyenne 35 000 emplois par année. Donc c'est quand même anormal. Comment dans un seul gouvernement, on peut écouter le premier ministre qui donne ses chiffres sur l'emploi, et lorsque le Parlement, nous voulons écouter le ministre sectoriel, le ministre approprié, celui-ci nous donne d'autres chiffres. Donc vous comprenez avec moi que c'est de cette façon, par cet amateurisme, que le secteur d'emploi est géré dans notre pays.
Alors, vous avez beaucoup insisté dans votre question orale sur l'emploi privé aujourd'hui. Est-ce que vous aviez l'intention d'amener les pouvoirs publics à sécuriser l'emploi privé qui, du reste, ne l'est pas? Ou bien, peut-être, vous aviez d'autres intentions?
Vous savez, M. Gire et tous les auditeurs, nous avons des grands secteurs en matière d'emploi. Nous avons le secteur public et le secteur privé. Le secteur public est géré par le ministère de la fonction publique, mais le secteur privé est géré par le vice-premier ministre, ministre de l'Emploi et de l'Emploi social. Et c'est dans ce sens-là que je voulais réellement comprendre comment le travail ou l'emploi se crée dans ce secteur-là. Comment ceux-là qui font travailler ou ceux-là qui travaillent fonctionnent-ils? Ou quelles sont les conditions dans lesquelles nos travailleurs congolais exercent leur travail? Et c'est ce qui m'avait poussé à me poser mille et une questions. La première question, c'est de savoir comment on accède à ces emplois. Aujourd'hui, pour accéder à un emploi, il faut avoir une expérience de 5 ans. Comment quelqu'un peut avoir une expérience de 5 ans alors qu'il y ait franchement des universités, alors qu'il ne travaille pas, vous exigez une expérience de 5 ans. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, comment comprendre que quelqu'un peut avoir un emploi alors qu'il n'y a pas de poste public qui sont créés pour les Congolais? Aujourd'hui, nous assistons à une confusion entre les emplois nationaux et les emplois des étrangers. Donc, chez nous, c'est devenu un déversoir où n'importe qui, avec n'importe quelle qualification, peut venir faire n'importe quoi dans notre pays. Ce qui pose un très sérieux problème. Nous avons le troisième problème, c'est celui qui est lié à la convention professionnelle. Ça veut dire, comment est-ce que les contrats sont-ils signés dans diverses entreprises? Nous avons beaucoup d'employés, beaucoup de travailleurs qui sont dans les entreprises sans aucun contrat, ou ils ont des contrats juste pour le besoin de l'être, mais qui ne s'appliquent pas. Donc, ça pose un très sérieux problème.
Mais honorable, parce qu'on va ouvrir les standards d'un moment à l'autre pour accueillir aussi les véhicules. Mais vous le savez tout de même bien qu'il y a un critérium universel édité par l'OIT que la RDC a même ratifié et qui suit à la lettre. Et depuis quelques années, nous avons réellement constaté quelques avancées. et les avancées qui sont très significatives.
Ah, je voudrais, avec tout le respect que je dois dire, avoir vraiment quelques cas de ces avancées significatives. Je considère aujourd'hui qu'il y a plutôt un recul. Et vous savez, il y a peu de temps, on avait dit que notre pays, nous avions franchi 11 paliers.
Nous avons fini aujourd'hui.
Nous avions franchi 11 paliers en matière d'idéal, ça veut dire un indice de notre mindset. Et nous étions le 176e pays, c'est ça, 86. Et il y a pas peu de temps, nous avions depuis longtemps signé ou ratifié la convention sur l'interdiction des droits du travail des enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas des enfants qui font du travail. C'est au moins cela une avancée.
Oui, tout à fait.
Et je crois que vous pouvez aussi constater une autre avancée en matière
quand il y a des avancées, il y a également des défis qui restent. Entre autres, ce que vous dites là, les défis qui restent au niveau de la sécurité de l'emploi privé.
Non, en fait, je voudrais qu'on se comprenne. C'est que lorsque nous essayons de parler des avancées à termes des pourcentages, vous allez constater que ce sont des avancées infinitimales. Donc, qui ne valent vraiment à rien par rapport à la réalité de l'emploi. Ce ne sont pas réellement significatifs. Et c'est là l'importance de ces débats au niveau du Parlement. Et d'ailleurs, je me rappelle de ces débats ce jour-là, il y avait tellement beaucoup d'interventions parce que toute personne voulait effectivement comprendre. Aujourd'hui, lorsque vous allez à l'inspection du travail, vous allez constater que l'inspection du travail, vraiment, elle est dino par rapport aux problèmes de sécurité, aux problèmes d'hygiène, aux problèmes de contrat qu'on se pose dans le secteur de l'emploi. Bien sûr, on peut constater, d'une autre part, qu'à Bukangalongo, à un certain temps, on avait créé d'une manière sporadique certains emplois. On peut constater qu'au niveau
Congo Airways,
au niveau du Congo Airways,
on
avait créé certains emplois d'une manière sporadique. On peut constater au niveau du 51 qu'on avait créé certains emplois d'une manière sporadique. Mais aujourd'hui, si je vois Bukangalongo, on a chassé plusieurs de ses employés. Si je vais au niveau du 51, on a chassé plusieurs de ses employés. Et on constate, en fait, qu'il n'y a pas de politique en matière d'emploi, puisqu'on devrait se dire que dans 6 mois, nous voulons baisser les taux de chômage d'autant de pourcentage. Donc, c'est ce qui devrait être. On devrait se dire que nous projetons créer dans le secteur industriel autant d'emplois. Et c'était ça la préoccupation. Monsieur le vice-ministre de l'emploi, par quel mécanisme, par quelle stratégie, vous pouvez nous dire que vous avez créé ces emplois et quelle était votre planification, quelle a été
la projection dans la
voilà.
Voilà, on va revenir à vous, honorable Paul Mouindo, vous êtes député national et lui de Béni Territoire. Nous rappelons à tous les auditeurs qui viennent à peine de rejoindre cette émission de composer les 081-890-7315 pour les interventions en direct.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 6315 ou par internet pa@radiocapi.com.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Voilà la question sur l'emploi, la sécurité de l'emploi privé à RDC intéresse les débats de ces jours. Maître Jean-Paul, vous êtes en Mandak. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour J.R., bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
Quelle est votre réaction par rapport à cette question orale qui a été adressée au vice-premier ministre sortant, ministre de l'Emploi, sur la sécurité de l'emploi privé, par le député Paul Mouindo? Il venait d'ailleurs d'expliquer les motivations. Et qu'est-ce que vous pensez, vous personnellement, du nombre d'emplois créés en RDC et aussi l'enquête qui devait être diligentée urgemment sur les emplois des Congolais occupés par les étrangers tels que proposés par l'honorable?
Depuis d'abord, nous saluons l'ingéniosité de l'élu de Béni, de sa question orale avec débat à l'égard du vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Prévention sociale. Mais il s'avère que cette démarche est devenue un peu intempestive, dans le sens que ma date a été à la tête du gouvernement depuis 4 ans. L'élu de Béni était là. J'en viens trop vite. À ce qui concerne, n'est-ce pas, le bilan de Matata Ponyo concernant les emplois. J'y ai. Matata Ponyo, au lieu de créer les emplois,
il a procédé par la suppression. Il a élagué, disant que non, on ne veut plus des agents fictifs. Mais aujourd'hui, je peux vous envoyer dans beaucoup de services où il y a beaucoup d'agents fictifs. Matata, avec les emplois que Mouzito avait créés, il a eu à révoquer les gens de part et d'autre. Si vous lisez l'article 93 de la Constitution, il est dit que les ministres et les chefs de son département ministériel, mais il assure la politique et gouvernementale sous la coordination du Premier ministre. Et en effet, le Premier ministre avait donné l'instruction à tous les ministres dans tous les domaines de ne pas engager les gens, que ce soit dans des sociétés, dans des administrations des gouvernements. Nulle part où Matata a autorisé, n'ose pas les concours de manière officielle à ce que les gens soient engagés. Si vous retrouvez le peu de gens qui sont aujourd'hui comme des travailleurs, ce sont des cousins, ce sont peut-être...
Maître Jean-Paul, je vous coupe tout de suite, c'est parce que là, nous avons eu à faire plusieurs émissions dans ce studio, et aussi vous avez participé, à laquelle vous avez d'ailleurs participé. Nous avons évolué avec le ministre de la fonction publique pour ne parler que de ce secteur, où il a été organisé des concours de recrutement au niveau de la direction standard, pour avoir la direction standard. Et il y a même, la loi portant statut des fonctionnaires et agents de l'État qui a été révisée, en tout cas modifiée même par les élus du peuple. Donc je crois qu'à ce niveau, il y a eu des recrutements, il y a eu la remise en service de l'enseignement au niveau de l'ENA, les énarques aujourd'hui ils sont à la quatrième génération. Là on peut quand même compter pour dire, voilà, l'idée de l'ancien gouvernement c'était d'améliorer quand même les conditions de travail des agents et fonctionnaires de l'État. Mais la question qui est posée aujourd'hui par l'honorable, c'est la sécurité de l'emploi privé. Est-ce que vous avez un commentaire par rapport à ça, au regard, par rapport au constat aussi que vous avez fait sur le terrain?
Bon, les constats de la sécurité des emplois, de la sécurité à ce qu'on dit les emplois privés. Bon, l'honorable vient tout de suite relever cet aspect des choses. Il vous a dit l'étudiant qui revient de l'université. Il a quelle expérience? Vous lui dites non, monsieur, pour être engagé, il faut avoir l'expérience d'au moins 5 ans. Par rapport au bilan qui a été donné par le Premier ministre, il le croyait comme s'il gérait la nation. Que la population était amorphée, on dirait tout à sa merci. C'est vrai, je suppose. Il faut quand même nous dire les choses qui sont valables et véritables.
Alors, vous avez des...
Est-ce que vous avez... Les concours qui ont été organisés.
Oui,
mais... Combien d'emplois ont été créés par rapport au budget qui a été donné par le Premier ministre?
Bah, qu'est-ce que vous avez constaté, vous? Il n'y a pas d'emploi? Les taux est à combien? Les taux de chômage? Les taux n'ont pas changé, on a parlé de l'évolution de 67%.
C'est de l'incompétence pure et simple à l'égard du Premier ministre, voire même sa suite, bien qu'il avait tout obstrué. Il n'y a pas d'emploi dans ce pays.
Voilà, je crois que le débat tourne autour de la sécurité de l'emploi privé en RDC, tel que proposé par le député Paul Mouindo, qui avait adressé donc une question orale avec débat au vice-premier ministre, sortant ministre de l'emploi du gouvernement Matata. Merci beaucoup Jean-Paul. Maître Adrien, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour Gilles Lungembo. Bonjour aussi à l'honorable Paul Mouindo.
Quelle est votre contribution?
Oui, je commence d'abord par dire merci à l'honorable Mouindo par rapport à la matière qu'il a eu à mettre sur la table. Parce que c'est comme vous avez dit, Gilles, au premier intervenant, c'est pour la énième fois que nous revenons sur cette matière. Donc, dans le temps, je l'avais dit, qu'il manquait certaines statistiques fiables pour que le Premier ministre puisse se situer pour savoir dans quel domaine précis il y a eu création d'emplois. Parce que lorsque je prends ma propre province, la province du Kasaï central, moi je me dis, il n'y a eu aucune création d'emploi. C'est comme ça que j'ai toujours dit, il ne faut pas qu'on puisse confondre. Lorsque des jeunes gens qui n'ont pas de travail, mais se mettent à vendre des unités, qu'on puisse dire ça, que c'est une création d'emploi. Là, c'est de 1, de 2. Lorsque nous de nous rendre compte que beaucoup de gens qui n'ont pas, donc qui ont leur diplôme, mais par manque d'emploi, ils deviennent ce qu'on appelle des cambistes. Hein, ils sont là pleins, donc tout autour de grandes artères. C'est comme ça que cette question a son pesant d'or, à la mesure où on nous laisse à l'air, on ne parvient pas à nous préciser en quel domaine. Troisièmement, vous allez constater aussi que lorsque le Premier ministre disait ce qu'il disait, on lui rappelait toujours qu'il devrait éviter d'abord l'autosatisfaction. Parce que s'il y avait création d'emplois, c'était la population qui devrait sentir les coûts. Ici, lorsque j'évalue avec les amis les taux de chômage au niveau de la province du Kassai central, nous sommes à peu près à 92%. Et puis, le 8% qui travaille, c'est avec quel salaire? C'est avec un salaire misérable. Et aussi, lorsque nous prenons maintenant, parce que la deuxième partie de votre question, pour certaines activités reconnues aux Congolais, c'est de prendre compte qu'il n'y a pas du tout de contrôle. Il y a des expatriés qui s'évertuent à travailler sur une matière reconnue aux nationaux. Et là, personne n'est sécurisé. Donc, nos amis sont abandonnés à leur triste sort. Aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez vous rendre compte que tout le monde est en train de se battre pour intégrer le monde politique. Parce que les gens ont compris que c'est le seul monde qui paye bien, à part le monde politique, et aucun autre domaine donc ne paye. C'est comme ça, il suffit tout simplement qu'on dise qu'il y a organisation des élections, et vous allez assister à tout genre donc, d'abus, de corruption, des antivaleurs. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, je peux gaspiller, je peux vendre même ma petite parcelle, et pourvu que je sois élu. Donc, si je serai élu, je
pourrai. Voilà. Merci beaucoup, Maître Adrien. On va écouter aussi Maître Machaka, qui est à Lubumbashi. Maître Machaka, vous êtes avec nous?
Oui, je suis avec vous, Monsieur Gilles.
Alors, avec le SMIG, ne pensez-vous pas que l'emploi privé est quand même sécurisé? Parce que, bon, tous ceux qui sont sous le régime de la convention collective, je crois qu'ils se retrouvent avec le SMIG, qui a été décidé d'ailleurs en son temps, avant 2010, lors des états généraux de l'emploi, organisé par l'ancien ministre du Travail et Prévention Sociale, Marie-Ange Lucena.
Merci beaucoup, M. Gilles. Vous savez, la question de l'honorable à saluer était fondée. Et c'est parce que c'était tombé entre les mains des gens qui ne voient pas l'intérêt général de la population. Ils voient seulement leur intérêt privé et l'intérêt de leur tendance politique. Puisque vous savez, aujourd'hui, M. Gilles, il n'y a pas une sécurité sociale en matière des emplois privés, M. Gilles. Nous qui sommes ici à Lubumbashi, là où il y a toute une multitude de sociétés privées, apporté surtout par les Chinois. Ici, vous voyez les conditions dont les gens travaillent. C'est comme si il n'y a pas les inspecteurs du travail, M. Gilles. Quand le vice-premier ministre et le ministre de l'Emploi nous avait dit qu'il a combattu le chômage et donné, etc., est-ce qu'il avait une banque de données pour savoir qu'on avait autant de chômeurs et on a engagé autant et ça reste autant? Ça, ce sont des données faux et archifaux, M. Gilles. Puisque en suivant la réalité sur le terrain, il n'y a pas la sécurité de ces gens, puisque la façon dont les gens sont employés, vous allez dire que ce sont les inhumains. Les inspecteurs du travail, même s'ils descendent sur le terrain, mais ces gens, ils ne font rien. Ils ne font rien, on leur donne quelque chose. Et ils donnent un faux rapport à la hiérarchie.
Voilà. Merci beaucoup, Maître Machaka. Vous révélez également sur l'inspecteur du travail, comme l'avait dit notre invité, honorable Moïdo. Qu'en est-il alors de l'ordonnance sur portant sécurité, en fait, sur la sécurité de l'emploi privé aujourd'hui, qui a été d'ailleurs, qui fait l'objet d'ailleurs des révisions plusieurs fois, ou des amendements? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, réellement, l'emploi privé en RDC est sécurisé?
Oui, en fait, il faut dire que l'emploi privé n'est pas vraiment sécurisé. Je voudrais d'abord rassurer les auditeurs par quelques aspects importants. Et la question, hein, avec débat, avait été déposée au Parlement depuis le mois de mars de cette année. Donc, c'est, malheureusement, ça a été programmé au mois d'octobre. Donc, 8 mois après. Et, mais nous saluons quand même sa programmation. Et par là de la sécurité de l'emploi, je voudrais d'abord rappeler quels sont les emplois qui sont réservés aux Congolais. Parce que ça doit être connu. Et les Congolais ont exclusivement les emplois ci-après. Dans tous les travaux, nous pouvons aller secteur par secteur. Dans le secteur de l'agriculture, pêche et élevage, un agent de plantation, ça ne doit être qu'un Congolais. Un agronome, un assistant vétérinaire, un garant adjoint de plantation, un ingénieur agronome, un maître de pêche, un mécanicien en géologie, un médecin vétérinaire, un moniteur agricole, un officier mécanicien. Nous avons aussi, dans le secteur des industries extractives, un chef d'équipe préparation mine, un géologue, un investigateur. Dans le secteur des industries manufacturières, nous avons un conducteur de four, un conducteur de machines. Dans les bâtiments, nous avons le secrétaire traducteur. Dans le secteur des transports, entrepôts et communications, nous avons un chef de catering, un chef d'entrepôt, un chef de service code, un commis pointeur, un inspecteur de services voyageurs. Nous avons un manutentionnaire, un mari filial dans le secteur de du commerce, banque, assurance immobilier. Nous avons le poste d'agent commercial, un chef de service d'approvisionnement. Nous avons le chef de service artistique. Nous avons le directeur des achats. Nous avons le directeur des ventes. Nous avons le parturier et tous les emplois liés à l'exercice du petit commerce. Un gérant adjoint, un programmeur, un secrétaire, un traducteur, un vendeur magasin, et nous pouvons parler par exemple. Donc, vous comprenez que ce sont autant de postes qui reviennent aux Congolais. Et la loi dit quoi? À son article, c'est l'arrêté numéro 080, dit ceci, que lorsqu'on constate, ou une entreprise constate qu'elle a reçu la demande d'un étranger sur ce poste, cette entreprise doit introduire une demande de dérogation. Cette dérogation doit être accompagnée d'une preuve qui n'a pas trouvé des Congolais susceptibles d'occuper les emplois concernés. Ça, c'est la première des conditions.
Avec 2 millions de demandeurs d'emploi congolais, voilà. C'est difficile vraiment d'en trouver.
Voilà. Donc, la deuxième condition, on dit que l'Office national de l'emploi ou son représentant à la province procède pendant 2 mois à la vérification des allégations de l'employeur et propose les 10 emplois aux nationaux par toute voie dans la presse. Et la quatrième condition, c'est qu'à l'expiration du délai de l'office cantonal, l'office cantonal fait un rapport et donne son avis sur le mérite de la demande de l'employeur. Donc vous comprenez que si cette procédure était respectée, on n'allait pas observer aujourd'hui des barman étrangers dans plusieurs bistrots. On n'allait pas observer aujourd'hui les Chinois entrer, n'est-ce pas, d'exercer les petits commerces partout où
nous sommes. Et qu'est-ce qui dit la même loi par rapport au contrat de travail?
Non, le contrat de travail, il existe un modèle type, ce que nous appelons la convention interprofessionnelle qui existe depuis longtemps, qui en fait un modèle type de contrat sur lequel devrait se baser tout le contrat. Et il est dit que lorsque vous engagez quelqu'un, il doit connaître, puisque les critères du contrat sont un, lorsque quelqu'un est engagé, c'est l'horaire du travail, c'est le salaire et son autorité de tutelle.
Et les avantages.
Et les avantages sont liés à cela. Et donc, vous constatez que, aussitôt que quelqu'un, on l'a pris et on sait bien qu'il a un travail, il doit avoir son contrat de travail. Et lorsqu'il a un contrat de travail, ce contrat est maintenant réglementé par les codes le soir du travail et suivi par les sections du travail. Malheureusement, ici chez nous, on a constaté vraiment beaucoup de failles dans ce secteur-là. Et d'ailleurs, c'est dans ce sens-là, lorsque vous essayez de voir cela, que nous avons demandé à ce qu'il y ait réellement une commission d'enquête parce que nous avons constaté des failles très fatales. Il est possible que si simplement on procédait à la requalification ou à une sorte d'identification de ce poste
uniquement qu'ils reviennent au Congolais, on peut gagner beaucoup de postes et on peut facilement les donner, n'est-ce pas, à toutes ces personnes qui sont demandées.
Quelle est la chance que vous accordez à cette commission qui sera mise sur pied pour enquêter sur toute cette question, la question liée, comme je l'ai dit, sur les emplois des Congolais occupés par les étrangers, les nombres d'emplois créés à RDC, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment une confusion, d'aucuns soutiennent qu'il y a une réduction du taux de chômage de 20%, disons de l'autre côté il y a des analystes qui rejettent des revers de la main toutes les avancées. Alors il y a également le problème des causes d'arrêt irréguliers et en masse de travail dans les entreprises privées. Alors vous avez mené cette enquête, cela est dû à quoi? C'est dû à quoi concrètement?
Oui, vous savez...
Les arrêts intempestifs, les arrêts irréguliers.
Oui, vous savez, tout ça, c'est dit à la faiblesse des services étatiques qui ont la compétence de réglementer ou de réguler le secteur de l'emploi. Et vous savez, si l'inspecteur du travail était doté...
Fonctionnait après régime,
je vous assure qu'on aurait moins d'habits. Puisque, vous savez, aujourd'hui, au-delà de ce que vous avez, il est possible aujourd'hui de créer plusieurs emplois à partir même des emplois existants. On retrouve par exemple dans beaucoup d'entreprises une seule personne qui assume le poste
de Mouzoutou a dit que le gouvernement ne pouvait réduire d'aucune manière le taux de chômage les 3 dernières années ni les 5 prochaines années avec notre économie actuelle. Donc, ça ne serait pas possible. Est-ce que vous partagez cet avis?
D'abord, je ne crois pas qu'il est impossible de baisser le taux de chômage. Moi, je crois que si on a des bonnes politiques en matière de création d'emplois, il est possible de baisser le taux de chômage. Je crois que si réellement on y mettait de l'attention et une volonté politique, on peut arriver à baisser le taux de chômage. Mais je ne suis pas d'accord avec les statistiques données. Parce que comment vous pouvez donner les statistiques d'emploi à
Le chômage
a baissé, alors que vous ne maîtrisez même pas le nombre des travailleurs. C'est quand même anormal. Comment vous pouvez dire que vous avez baissé les taux de chômage alors que vous ne maîtrisez pas les taux de natalité? Vous ne maîtrisez même pas les taux de l'ensemble des populations qui existent sur le territoire congolais. Donc, comment vous pouvez dire que vous avez baissé le taux de chômage alors que nous savons que les dernières statistiques vraies datent des années 70? Donc, il ne me parlait pas de ça. Les Congolais savent que c'était du maquillage des chiffres, c'était des faux chiffres et cela n'était pas réel.
Donc, si je comprends pour vous, c'est quand même une question transversale. Aujourd'hui, il faut associer quand même l'ONIP aussi, parce que l'ONIP, qui est chargé de recensement et aussi obligé de pouvoir faire quand même un travail de nous donner des statistiques fiables par rapport à cette question. Ça pourrait quand même couper court à tous ces débats qui alimentent nos salons à longueur de journée, quoi.
Oui, en fait, c'est comme c'est qu'a dit Maître Adrien, que je remercie à passant, qui est au Kassai. En fait, avant de parler même de l'ONIP, il faut dire que les statistiques avaient existé dans notre pays. L'ONIP, c'est un projet qui ne date pas de 2 ans, mais les statistiques étaient prélevées bien longtemps. Donc, je crois que penser que les statistiques ne peuvent être prélevées par l'ONIP, c'est déjà c'est trompé. Nous avons l'Institut national des statistiques qui devrait faire ce travail. Mais pourquoi cet institut ne travaille pas? Donc, moi, je ne vois pas directement l'ONIP. Il y a simplement une défaillance en matière, n'est-ce pas, en matière d'organisation de ce secteur-là. Mais si je reviens sur Maître Machaka a parlé du SMIG. Vous savez que le SMIG que nous avons date de 2008. Alors que de 1960 à 1983, le SMIG était réagissé année par année. Parce que le SMIG, n'est-ce pas, doit traduire la réalité la réalité du marché. Ça tient compte, n'est-ce pas, de l'inflation sur le marché, ça tient compte, n'est-ce pas, du cours de change moyen sur le marché, ça tient compte de l'indice des prix sur le marché, et tout ça, on observe aujourd'hui. Le SMIG qui était, c'est le SMIG actuel de 2008, fixe le salaire moyen à 1680 francs congolais. Et qui était l'équivalent des 3 dollars à l'époque parce que le taux était
à 3 dollars, mais avec l'inflation, ça a perdu quand même sa valeur.
Le 1680 aujourd'hui, c'est 43 680, ce qui est presque 36,4 dollars.
c'est ce qui représente le SMIC aujourd'hui. Et là, j'avais posé la question au gouvernement. C'est vrai que pour améliorer le SMIC, ça demande à ce que le gouvernement,
la réunion tripartite,
patronat et l'intersyndicale, qui se mettent ensemble. Et qui doit convoquer cela? C'est le gouvernement. Mais on a constaté que pendant tout ce temps, le gouvernement n'avait pas voulu convoquer la tripartite en fait d'améliorer les conditions salariales des travailleurs. Ce qui fait que dans le monde du travail, lorsqu'on donne à quelqu'un ça, le patron se dit, bon, ça y est, je t'ai aidé parce que votre SMIG me demande de vous donner 38.4.
Mais étant pas sécurisé, vous pouvez peut-être, on peut résilier le contrat.
Oui, on
peut
résilier.
Donc, voilà. Alors, on va retrouver les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Adrien Moyen Mali de Kinshasa, Martin également de la ville province de Kinshasa et Génère Valérie à Kindou. Adrien, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci beaucoup. Bonjour, JR. Je salue aussi l'honorable député qui est au plateau et tous les auditeurs de la radio Capitaine.
Quelle est votre position à ce niveau du débat?
Merci beaucoup, JR. Je veux commencer d'abord par une observation et après je vais poser les questions à l'honorable. Nous commençons. Si vous observez le discours du chef de l'État depuis qu'il est au pouvoir, il faisait toujours continuer, n'est-ce pas, dans l'amélioration du social, qui passe par la création d'emplois. Et même dernièrement, son discours ici, il a donné encore le mandat à ce gouvernement. Mais depuis lors, ce que nous constatons sur terrain, rien ne bouge. Si nous disons rien, c'est parce qu'il y a les emplois qui se créent, mais il y a aussi le taux de natalité. D'ailleurs, votre invité l'a aussi relevé. La population est en train d'augmenter pour créer d'emplois inférieurs, même au nombre d'individus qui sont augmentés, alors il ne faut pas s'en féliciter. Alors, lorsque vous observez, la loi donne d'ailleurs l'invité à soulever le nombre, n'est-ce pas, de postes que le Congolais doit occuper. Mais le mal est que cette loi est violée sous l'œil, n'est-ce pas, impuissant, même de l'inspection du travail qui existe du nom. Je donne une illustration. Allons par exemple au Katanga, où il y a des entreprises, des sociétés minières. La sous-traitance est faite par les sociétés étrangères. Vous trouvez dans une entreprise, même le chauffeur était étranger, le chauffeur d'un engin. Pourtant, c'est un travail qui est exclusivement congolais. Alors, en ce qui concerne la question de l'honorable, qui a voulu savoir comment est-ce qu'on peut sécuriser le secteur privé, la désolation est celle de constater tout simplement que le Congolais lui-même n'a pas l'esprit d'ingéniosité parce que le gouvernement n'a pas une politique. Nous avons un pays riche, mais ceux qui en tirent profit, ce sont les étrangers parce qu'ils ont cette ingéniosité de venir créer de l'emploi dans notre pays et nous, Congolais, nous devenons encore travailleurs payés minimalement par cet étranger. Alors, je voudrais ici interpeller le gouvernement par le biais du ministère, n'est-ce pas, de l'emploi, quelle est la politique, n'est-ce pas, d'entrepreneuriat qu'on peut mener afin que l'on puisse pousser le Congolais à pouvoir créer de l'emploi dans son propre pays. Alors, la question que j'adresse à l'honorable qui est au plateau, mais cher honorable, je pense que votre question est venue en retard parce que vous avez posé la question à un ministre démissionnaire qui vient de sortir. Votre enquête aboutira à quoi? Et les recommandations de votre enquête, vous allez les donner au nouveau gouvernement entrant, ou bien vous allez en faire aussi un rapport comme tant d'autres. Voilà ce que j'ai.
Voilà, Adrien, je vous pose également une question aujourd'hui. Oui. Que vous êtes sans ignorer que le taux de chômage, pour qu'il soit amélioré, inversé si vous voulez, dépend également des taux d'investissement. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui du taux d'investissement en République démocratique du Congo?
Mais JR, pour répondre à cette question, il ne faut même pas réfléchir. Le taux d'investissement est de combien de pourcents? Il faut voir combien de sociétés ont été créées par les Congolais. C'est simple. Est-ce que vous pouvez me citer une seule entreprise, même moyenne, une moyenne entreprise ou petite entreprise qui est créée par le Congolais qui entreprend combien? Si ce ne sont pas des activités, n'est-ce pas, quotidiennes que la population met sur pied pour sa survie. Vous allez appeler ça, d'ailleurs, Maître Adrien de Canan avait dit, il ne faut pas confondre avec quelqu'un qui ouvre un poste de téléphone, n'est-ce pas, des ventes de crédit, vous dites, bon, il y a de l'emploi dans le secteur privé.
Voilà, merci beaucoup Adria Moyemali d'avoir appelé de Kinshasa. Nous restons toujours dans la ville-province de Kinshasa. Martin, vous nous avez rejoint à ce niveau du débat. Bonjour, Martin.
Bonjour, Pierrot.
Alors, quel est votre avis, Martin? Parce que vous avez suivi les uns les autres, on se rend compte que c'est pratiquement impossible aujourd'hui d'inverser les taux de chômage, hein, d'inverser vraiment sa courbe, parce qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne des comptes.
Oui, Pierrot, je vous félicite d'abord de discuter là. Il a vraiment raisonné pour l'emploi de ce pays. Au moins, je vous parle des sous-boulots même. Mais je ne veux pas parler beaucoup. Ce que je voudrais vous dire, c'est que d'après moi, je n'aime plus que le ministre du Travail, du Travail pour la prévoyance sociale, qu'il soit là, qu'il démissionne. Parce que comment ça se dit que dans une entreprise, quelqu'un qui travaille une année, c'est une année. L'autre fois, on va appeler, on va expliquer que le même pas là. Quelqu'un ne peut pas travailler une année sur une année. Il n'y a pas de congé, il n'y a pas quoi. Qu'il descende sur le terrain. Nous sommes dans des entreprises là avec des autres patriotes. Pierrot, je ne vais pas entrer beaucoup dans les détails. Vous voyez, dans une carte de travail, on ne connaît plus une autre fonction et dans les lettres de demande d'emploi, une autre. C'est pourquoi aussi, c'est sérieux, Pierrot. Il dit non.
Voilà. Je crois qu'à notre niveau, nous soumettons les débats comme, en fait, il y a un prétexte, l'honorable a proposé des questions orales. C'est pourquoi nous réfléchissons ensemble. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Parce que le SMIC qui a été arrêté en 2008 tourne autour des 3 dollars à peu près. Aujourd'hui, avec l'inflation et même cette monnaie a perdu sa valeur, hein, en tout cas la valeur nominale, de 3 dollars aujourd'hui, disons, les Congolais moyens qui est sous ce régime de la convention collective perçoit par rapport à ce SMIC 1600 francs congolais donc par jour. Donc c'est déjà un problème. Alors que faire? Faudrait-il convoquer une réunion tripartite entre les patronats, les gouvernements et l'intersyndicale pour dégager encore la possibilité en francs congolais de revoir un peu ce SMIC pour sécuriser l'emploi? C'est un débat qui est lancé. Ingénieur Valérie, vous nous avez rejoint, vous êtes à Kindu, bonjour.
Je crois que pour sécuriser l'emploi, il y a quand même des paramètres auxquels nous devons nous référer. Je commence par ce que vous venez de dire vous-même tout à l'heure. Il va falloir une rencontre entre le gouvernement et l'intersyndicale. Et moi, je dis aussi que l'intersyndicale d'ordre, elle se contente des cotisations syndicales. Il ne pouvait pas attendre qu'on en soit arrivé là. Mais pourquoi les travailleurs les ont recrutés? Pourquoi ils ne se sont pas inscrits au syndicat? Pour défendre leur
droit. Ingénieur Valérie, on a des soucis avec votre ligne. Est-ce que là où vous êtes dans une maison?
Oui, je suis dans une maison.
Alors, vous sortez comme dans une caisse. Est-ce que vous pouvez peut-être changer votre position? Vous pouvez changer votre
maintenant.
Mais on va essayer, allez-y.
Oui, je disais que il faut commencer par condamner l'intersyndicale qui ne revendique pas depuis que les SMIC étaient arrêtés à 3 dollars jusqu'à ce jour. Pourquoi est-ce que les travailleurs ont pris des syndicats comme défenseurs? C'est parce que les syndicats doivent réclamer et revendiquer leurs droits. Alors, quand un syndicat ne s'est pas revendiqué, ce n'est pas un syndicat. Alors, concernant le problème de l'engagement, je crois que quand nous parlons de l'emploi, pour sécuriser l'emploi, moi je commence par cette notion que beaucoup de gens négligent, la classification d'emploi. Avant d'engager un travailleur, l'entreprise doit déjà disponibiliser ce qu'on appelle une classification d'emploi. C'est-à-dire que dans la classification, on sait que pour occuper telle fonction, il faut avoir tel niveau, ainsi de suite, voici les exigences, et voilà comment quelqu'un sera rémunéré. De cette manière, engager un travailleur, c'est l'insérer dans la classification d'emploi. C'est de un. De deux, parce que nous parlons d'emploi, on peut avoir créé d'emploi, mais qu'on nous dise c'est quel type d'emploi. Je voudrais par là me limiter à deux types d'emploi, par exemple, que je veux différencier, l'emploi typique et atypique. Lorsque un emploi est régi, un, par un temps plein, deux, par un contrat spécialement à durée indéterminée, et puis trois, par la convention collective, voilà au moins ce qu'on peut appeler emploi et voilà les emplois dont nous pouvons nous vanter. Ces emplois sont appelés typiques. C'est là où on voit qu'il y a la sécurité. Il y a les contrats durés indéterminés, ce ne sont pas des petits emplois que quelqu'un peut abandonner après 2-3 ans. pour aller chercher encore ailleurs. Par après, on lui dira que vous avez 40 ans, on ne sait plus vous engager. Et on doit retrouver aussi la convention collective qui accorde qui met l'accent sur des avantages, au-delà même du contrat de travail. Mais est-ce que les emplois qu'on a créés, ce sont des emplois typiques ou atypiques? Je sais que ce sont des emplois atypiques. Donc les emplois qui ne réunissent pas ces conditions-là. En plus de cela, troisièmement, je pourrais dire que quand nous allons dans la politique de plein emploi, dans la politique de plein emploi, nous devons bien envisager le mécanisme pour tendre vers cet emploi typique. Et aussi, là nous voyons les traitements sociaux et les traitements économiques. Est-ce que lorsqu'on dit qu'on veut créer l'emploi, y a-t-il des réformes? Y a-t-il facilité des investissements? Y a-t-il une réglementation rigoureuse? Y a-t-il des suivis? Mais au moment où on crée l'emploi, n'est-ce pas que les privés qui ont des initiatives sont en train de fermer vers les entreprises par-ci par-là à cause des taxes exagérées? Je crois que nous risquons de faire un pas et un recul en même temps. Il va falloir que, entre le gouvernement et les syndicats, qu'on ait d'abord un dialogue très franc, entre le gouvernement et les investisseurs aussi, qu'on ait un dialogue très franc, que les salaires soient payés et que l'inspection du travail fasse aussi son travail, pas pour aller rançonner les investisseurs, mais pas pour aller rançonner les entrepreneurs, mais au moins pour aller suivre l'application des lois congolaises dans les entreprises. Parce que quand on vote un code de travail pour arriver aux causes, il y a tous les trois bases sont là. Il y a le gouvernement, il y a les syndicats, il y a encore un
patronat.
Mais au fur et à mesure qu'on avance et que les choses n'évoluent pas, on doit quand même revoir tout cela. Et on doit aussi stimuler les investissements. Aujourd'hui, le secteur bancaire est par terre. Quels sont ces investisseurs? Les investisseurs iront chercher de l'argent auprès de quelles banques? Lorsque les banques elles-mêmes tendent déjà vers une faillite.
Alors, ingénieur Valérie, juste une question de curiosité que par rapport à la cinquième tribune d'Adolphe Mouzitou qui parlait de l'impossibilité de réduire les taux de chômage les trois dernières années, donc 2012, 2015, ni les cinq prochaines années à venir. Est-ce que vous partagez cet avis?
Ah, mon cher JL, je suis encore peiné de parler d'Adolphe Mouzitou. Mais il vient d'être le premier ministre du pays, non? C'est lui qui n'a même pas résolu le problème des Libanais, des travailleurs congolais qui étaient tout le temps dérangés par les Libanais, les travaux des Congolais qui étaient exercés par les étrangers. Est-ce qu'Adolphe Mouzitou avait réussi à maîtriser ce problème? Aujourd'hui, il devient donner des leçons. Ah, je ne peux pas parler de M. Adolphe Mouzitou avec tous les respects que je lui dois. Ça, c'est regrettable. Il en aurait bien parlé et bien fait quand il était Premier ministre. Aujourd'hui, en tout cas, je suis désolé, mon frère.
Alors, vous, personnellement, comment entrevoyez-vous l'avenir, en tout cas de l'emploi, du secteur de l'emploi en RDC, dans les 5 ans à venir?
Oui, dans les 5 ans à venir, je voudrais d'abord qu'il y ait un code d'investissement tout à fait pragmatique. Qu'il y ait une incitation à l'investissement. L'État congolais n'alourdisse pas des taxes sur les investisseurs. Et entre ça, c'est du côté investisseur. Deux, du côté travailleur. Qu'il y ait que chaque entreprise ait au moins une convention collective. C'est plein d'entreprises là-bas à Kinshasa qui n'ont même pas de convention d'entreprise. Moi, j'étais permanent syndical à l'hôtel Memling. On avait révisé la convention collective de l'hôtel Memling, je crois, en 2006.
C'est
plein d'entreprises. Voilà. C'est plein d'entreprises qui n'ont même pas de convention collective. Il faudrait que l'on pèse pour que nous soyons tous dans les emplois typiques. Je répète, l'emploi typique est un emploi qui est caractérisé par trois paramètres. Nous avons, un, le plein emploi, c'est-à-dire que les gens doivent travailler à temps plein. Deux, nous avons un contrat à durée indéterminée. Trois, nous avons maintenant ce que je venais de dire, c'est encore quel élément, le troisième, à la convention collective. Donc, il faudrait qu'on arrive à ça et qu'il y ait aussi une application rigoureuse, un suivi de tous ces mécanismes par l'inspection du travail. Et par tout ça, nous devons aussi parler de l'amélioration des conditions de vie des gens. Si l'inspecteur du travail, il touche 92 000 francs congolais et que quand il va chez un privé, on sait les corrompre avec 5 000 dollars. Mais il faut abandonner tout ça et sacrifier les travailleurs. On va aller tout ça.
Merci beaucoup, ingénieur Valérie, d'avoir appelé des Kindou. On va voir avec maître Dominique Aboujimaï, Jean-Louis Akejassa, à qui je demande d'abord de garder la ligne. 081 890 6315 pour votre intervention directe.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais se centre aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiookapi.net.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen. Nous recevons dans ce studio l'honorable Paul Mouindo, député national et élu des Béni Territoires. Honorable Paul, vous avez suivi les uns les autres. D'abord, quelle est votre réaction par rapport à la contribution?
Oui, je suis très content par toutes ces interventions vraiment très riches. Et je me dis que le problème d'emploi est réellement un problème perçu, vécu et senti par tout le Congolais. J'ai aimé lorsque M. Trier a parlé du discours du secrétaire d'État. Et on constate aujourd'hui qu'il y a disparité entre le discours et la pratique. Vous savez, à un moment, on nous avait parlé des 5 chantiers. Et dans les 5 chantiers, il y avait l'emploi. Mais on était malheureusement à un certain moment, le gouvernement n'avait pas si quantifié cet objectif à terme quantitatif. Et donc ça, c'était le premier problème. Et il a parlé de la sous-traitance. Vous savez que on ne peut sous-traiter que des tâches qui ne reviennent pas dans l'activité principale de l'entreprise. Mais aujourd'hui, on constate que quelqu'un qui est, par exemple, un commerçant, mais il va sous-traiter les caissiers, il va sous-traiter les agents commerciaux. Vous avez quelqu'un qui est banquier. Il n'a que comme activité principale, n'est-ce pas, de l'activité liée à la monnaie. Mais il sous-traite les caissiers de la banque. Ce sont des contraventions contre la loi. Donc, ce sont des violations de la loi. On constate des sous-traitances, malheureusement, qui se font sous la barbe de ceux-là qui sont censés ordonner les services de ce secteur-là. Donc, je me dis qu'il y a vraiment lieu de pouvoir relever les défis. Aussi, je me dis, la démarche que nous avons faite, elle n'est pas tardive. Et c'est vrai, vous savez, il y a la notion de la continuité de l'État. Même si, aujourd'hui, le gouvernement actuel est un gouvernement démissionnaire, alors qu'il faut rappeler que la question avait été débattue lorsqu'ils étaient encore en plein travail. Et nous sommes convaincus que les recommandations et les travails, si l'enquête est autorisée par le Parlement, parce que c'est ça le grand problème, nous devons davantage batailler pour que le Parlement autorise cette enquête, ça peut amener encore à résoudre beaucoup de problèmes, parce qu'à l'heure où nous vous parlons au niveau du Parlement, nous traitons déjà une loi sur la sous-traitance. Et la sous-traitance, elle doit être exclusivement faite aussi par beaucoup de Congolais. Donc je me dis, il y a vraiment des préoccupations importantes, comme par exemple, ce qu'a évoqué le général Valérie. Bien sûr, si les guerres syndicales fonctionnent normalement, mais écoute, personne ne peut accepter d'être esclave de l'autre humain. Nous avons déjà dépassé le niveau d'esclavagisme. Et ici, je crois que le droit tel qu'évoqué par le général Valérie doit être revendiqué par tous ces travailleurs. Comment on peut te faire travailler pendant plusieurs moments sans contrat et puis tu acceptes d'y rester dans les mêmes conditions? Donc on constate que l'inspection ne fait pas son travail. Mais l'intersyndical ou les syndicats dans des entreprises doivent jouer ce travail-là. Même si nous savons qu'il y a des entreprises qui refusent, n'est-ce pas, la formation des syndicats. Je prends une bague à la place. Lorsque je faisais la question, on m'avait parlé de la TB qui avait chassé à un moment les travailleurs parce que ceux-ci réclamaient à ceux qui ont formation du syndicat au sein de la TB. Et ça, ce sont des choses que le secteur du travail devait, n'est-ce pas, réglementer. Mais je suis d'avis que il y a vraiment...
Je crois que vous avez documenté ça dans votre rapport. Vous nous évitez peut-être aussi
bien évidemment les réponses de la TMD. J'avais documenté cela, c'était dans ma conclusion, parce que nous avions mené d'ailleurs une enquête. Et mon équipe avait mené une enquête ici à Kinshasa et sur l'emploi des étrangers. Et nous avions aussi mené l'enquête sur le comité de travailleurs, ce qui fait que nous avions reçu, comme la question avait été programmée, avait été prévue depuis le mois de mars,
2000. Il a été reprogrammé au mois d'octobre.
Ah oui,
là aussi, il y a l'intérêt administratif, il y a le Parlement. Quel est son impact? Nous allons réfléchir un peu, faire un débat autour de ça, peut-être avec un député, pour vous éclairer un peu, disons, les conséquences que produisent un peu les retards enregistrés dans le niveau administratif par rapport à cette question. Mais il y a le général Valéry qui avait fait quelques propositions, hein, pour qu'on arrive quand même à des solutions. Je crois que, bon, pour les dernières 15 minutes qui restent, on va quand même faire des propositions. Il a parlé des codes d'investissement qui doit quand même entrer en scène, et puis l'incitation à l'investissement et l'allègement au niveau fiscal, hein, pour permettre à ce que l'investisseur soit vraiment dans un climat d'affaires très apaisé. Et ça pourrait être quand même une solution. Est-ce que vous pensez
je suis d'avis vraiment que l'on puisse. Je rejoins les recommandations de général Valéry. Je vois que c'est un acteur vraiment qui milite beaucoup pour l'amélioration des conditions de l'emploi. Quand il a parlé des emplois typiques, c'est ça, c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin de travail décent. Et on a besoin, effectivement, cela passe par deux éléments importants qu'il a évoqués. Il y a un, la légifération, mais il y a aussi le suivi rigoureux de lois qui existent. Parce que aujourd'hui, non seulement on a besoin de sécuriser les travailleurs, mais on a aussi besoin de sécuriser les employeurs ou les investisseurs. Il existe, n'est-ce pas, une loi, le code d'investissement existe. Et je crois que s'il est respecté, n'est-ce pas, dans sa totalité, on ne peut pas observer beaucoup de déviations actuellement. Donc, sur cette recommandation de Général Valéry, moi, je demande simplement à ce qu'il y ait respect de la loi en matière de code d'investissement, puisqu'il y a beaucoup de dispositions qui sont en faveur des Congolais. Et si, par exemple, la stimulation des investissements, ça, c'est important. Nous avons le ministère de petites et moyennes entreprises. Nous devons savoir évaluer ces militaires. En tant que député national, c'est parmi aussi les perspectives. Donc, d'après le temps, nous devons aussi amener le ministre de petites et moyennes entreprises à nous dire combien de petites et moyennes entreprises ont été créées dans notre pays, parce que ces entreprises-là reviendraient directement congolais. Et quand bien même, nous savons qu'il y a prolifération, n'est-ce pas, des violations des petites et moyennes entreprises à faveur des étrangers. Encore là, il faut qu'il y ait un contrôle rigoureux et l'application de la loi. Il a parlé, n'est-ce pas, des conventions collectives. C'est important. Les conventions collectives doivent être imposées. Et d'ailleurs, c'est aussi un entraînement de l'enquête, parce que lorsque l'enquête sera déclenchée, la première question qui sera posée, on a à l'étranger, donc montrez-nous ton contrat, qui t'a signé ce contrat, la carte voilà. D'emploi.
On va poursuivre d'ailleurs sur cette question relative à la convention collective. Il est temps de rappeler à nos auditeurs ce qui vient à peine de nous rejoindre, que nous sommes en train de débattre sur la question faite sur l'emploi, la sécurité de l'emploi dans le secteur privé. Voilà, donc 081-890-75 pour votre intervention directe. Voilà, il faut encore merci de votre fidélité à Radio Okapi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Nous avons dans ce studio les députés nationaux élus des Béni Territoire, Paul Moïndo. Avec lui, nous parlons de la sécurité de l'emploi donc, dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Faisant suite donc à la question orale avec débat qu'elle avait adressé au vice-premier ministre et ministre sortant de l'emploi et prévoyance sociale. Alors, honorable, vous avez, parce qu'il nous reste quelques dizaines de minutes pour conclure cette émission, vous avez, dans votre conclusion, fait des recommandations pratiquement pour sauver quand même le secteur. Et je l'ai dit tantôt dans le sommaire, vous avez plaidé pour une commission d'enquête urgente sur la question relative aux emplois occupés par les étrangers et aussi les nombres des emplois déjà créés, des emplois créés en République démocratique du Congo, et aussi la question relative aux causes d'arrêt irrégulier et en masse de travail dans les entreprises privées. Alors, mis à part cela, quelles sont d'autres recommandations que vous avez pu formuler?
Oui, au-delà de cela, d'abord, une autre recommandation, c'est que je crois qu'elle elle doit être appliquée. Nous allons veiller à ce qu'elle soit appliquée. C'est, n'est-ce pas, la convocation urgente de la tripartite sur, n'est-ce pas, les civils congolais. Je crois que depuis 2008, nous avons plus de 8 ans c'est trop. Et les conditions ont tellement changé, il faut que le nouveau vice-premier ministre ou ministre de l'Emploi puisse recadrer et puisse actualiser ou réajuster les prix qu'on connaît. Donc c'est parmi les recommandations. Mais aussi, nous avions dit aussi qu'il est possible de commencer à prélever sur, les salaires de tous ceux-là qui travaillent. Nous avions proposé au moins 1000 francs. 1000 francs, ça aiderait à quoi? Ça aiderait à ce que nous appelons une caisse de solidarité au chômage. Donc, en attendant que les jeunes étudiants puissent avoir un emploi, il est possible que si on prélevait sur chaque employé seulement 1000 francs, ça aiderait à ce qu'on puisse non simplement, par exemple, commencer à donner un petit rien pour ces chômeurs, et c'est un, mais d'aider, ça peut aussi renforcer d'autres mécanismes de renforcement des capacités à terme d'une petite expérience. Pourquoi nous avons parlé de cela? Parce que la BAD, il n'y a pas, c'était depuis le mois de mars, avait donné 10 millions de dollars pour ne pas permettre à ce qu'il y ait formation de 10 000 personnes. Et ces personnes devaient passer par une formation de 6 mois afin qu'on puisse élaguer le problème des 5 ans d'expérience. Mais nous nous sommes dit que non, cela c'est une solution sporadique. Ça doit être dans les temps. Et voilà pourquoi il faut penser à d'autres mécanismes qui puissent permettre à ce qu'on puisse renforcer la capacité entrepreneuriale et la capacité professionnelle de ceux-là qui viennent, n'est-ce pas, des diverses universités. Donc, c'est parmi les recommandations. Mais également, nous avons dit, il faut aussi arriver à enquêter sur le pourquoi du maquillage des statistiques des chiffres. Pourquoi on peut, dans le même gouvernement, arriver à dire qu'il y a autant d'emplois créés? Donc, il faut arriver à donner des statistiques fiables. Parce que les statistiques à question sont importantes, même en matière du budget. Vous ne pouvez pas, dans votre maison, vous dire que vous allez amener 10 dollars pour des personnes, alors que vous avez une famille de 5 personnes. Vous ne pouvez pas avoir un revenu de 10 dollars et dire que vous allez nourrir 10 personnes. Non, il faut avoir d'abord une idée des besoins des personnes qui doivent être nourries et savoir les montants qu'il faut leur allouer.
Autant, le rapport aux racines,
autant aussi, donc, il est important d'avoir des statistiques fiables importantes. Et enfin, pour citer, il est urgent, nous allons davantage venir, on doit ramener tous les Congolais dans leur poste. Il est anormal, inadmissible. Seulement ici, qui fait ça, on observe que beaucoup d'entreprises occupées par les Libanais, par les Chinois, par les Indo-Pakistanais, par les Ouest-Africains, mais ils sont eux-mêmes travailleurs, ils sont eux-mêmes vendeurs, ils sont eux-mêmes caissiers. C'est inadmissible. Il y a des autorités, parce qu'un député ne peut pas aller demander à un étranger de quitter. Il y a les gouvernements qui sont là, qui doivent faire ce travail, mais nous allons venir enquêter sur les responsabilités. Il faut que l'on puisse retourner les Congolais dans leur poste de droit et que les étrangers puissent s'occuper. Il y a des postes qui leur reviennent.
Voilà, on va écouter cette dernière série des auditeurs, Maître Dominique est un bout du mail, Jean-Louis à Kinshasa, Joséphine à Boston, merci de nous avoir rejoint à ce niveau du débat. Maître Dominique, bonjour, vous avez suivi les recommandations formulées par l'honorable député Mouindou, quelle est votre réaction rapidement? Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, à compléter parmi ces recommandations?
Oui, monsieur J.R., il y avait beaucoup à dire là-dessus, il y avait beaucoup à dire, mais comme vous ne me donnez que quelques secondes, je vais dire, le député a bien parlé, il a bien fait son travail, c'est un travail scientifique, après tout, qui ne va rien apporter parce que lui, en tant que député, il a interpellé les ministres et rien n'est fait. Au Congo, il faudra, monsieur J.R., faire respecter la loi. Or, le gouvernement congolais nous met dans des conditions telles que les textes qui régissent notre pays ne peuvent pas être suivis, ne peuvent pas être respectés. Nous sommes dans un régime d'impunité à telle enseigne que on ne sait
oui,
pas.
Oui, rapidement, M. Dominique, parce qu'on a plus assez de temps, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'il va falloir qu'on mette ensemble le patronat, les gouvernants et l'intersyndical, comme l'ont proposé vos prédécesseurs, et aussi car la recommandation formulée par l'honorable, cet aspect de COU a été également évoqué. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il faut l'application stricte du code d'investissement pour non seulement sécuriser l'employé, mais sécuriser aussi l'investisseur? Et vous êtes aussi d'accord qu'il va falloir qu'à un certain moment, qu'on puisse aussi permettre à ce qu'il y ait l'allègement fiscal afin de vouloir donner l'occasion aux investisseurs, que ce soit les Indo-Pakistanais ou encore les West-Africains, pour que chacun se retrouve et qu'on respecte la loi?
C'est ça le problème. Mais déjà, je vais vous dire, JR, si l'État lui-même ne fait pas respecter l'emploi, l'État lui-même, vous avez des autorités qui vous disent que ceux qui roulent en moto, c'est de l'emploi créé au Kassai, parce que les Kassaïens sont maintenant à Kinshasa, ils font les Wewa, ils sont maintenant à Lubumbashi, ils font les Manseba, on croit que ça, c'est de l'emploi. Là, vous voyez un peu à quel niveau on est. Et puis, un autre problème. Nous avons, prenons ici chez nous au Kassai, il y a une société qu'on appelle Ameco, qui n'a pas de siège social. Vous voulez suivre. Vous vous retrouvez devant un problème avec l'inspection du travail. On a décentralisé, découpé les provinces. Maintenant, quel est l'inspecteur qui peut suivre ces dossiers? Parce que c'est lui qui était au district de Kabinda, le district n'existant plus. Donc, la province.
Oui, parce que ça va rapporter, ça relance un débat sur la décentralisation de la
division publique. Nous nous retrouvons dans une situation qui est très
compliquée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, maître Dominique. On va accorder quand même aux autres aussi une minute à chacun. Comme ça, on va conclure cette émission. Jean-Louis, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, c'est journaliste.
Voilà, maître Dominique proposait encore la relance des débats sur la décentralisation de l'administration publique, hein, parce que c'est vraiment des questions qui sont transversales, qui doivent être traitées de manière aussi transversale, Jean-Louis.
Oui, bon, le problème de la décentralisation, ce n'est pas simplement le problème réel, mais le problème réel, c'est l'irresponsabilité des gouvernants, donc du gouvernement, de l'inspecteur du travail, et les responsabilités, je peux dire, c'est bien. Ce sont vraiment les mots qui convient des aventuriers. Je n'ai pas assez de temps pour vous expliquer réellement les choses qui se passent, parce que je suis dans le secteur privé, employé par des étrangers. Je vous dis, il y a des choses impossibles. Vous vous rendez compte que tous ces inspecteurs du travail, ils passent au bureau pour prendre de l'argent, au moment où ils savent qu'il y a des Congolais qui travaillent sans contrat. Ils n'ont pas de soins médicaux, ils n'ont rien comme document qui justifie leur travail et ils sont à la merci de tous ces étrangers-là. La même chose pour tous ces gens qui sont à l'INSS, qui sont à la DGI, ils sont en train de faire de tout, donc il y a des collectes d'argent.
Alors, vous proposez quoi pour qu'on puisse quand même changer les choses? Vous proposez quoi?
Moi, je pense que c'est très bien, mais il faudrait que les travailleurs soient représentés, même pas les syndicats, parce que les syndicats, quand ils viennent pendant les élections, ils ont leur quota, leur pourcentage.
Merci beaucoup. D'avoir utilisé vos deux minutes. On va prendre Joséphine qui est à Boston aux États-Unis. Joséphine, madame, Joséphine, bonjour.
Bonjour,
Gilles. Une minute trente, ça va se voir. Une minute trente. Oui.
Ok, je vais dire ceci, hein. La charité bien ordonnée commence par soi-même. L'État congolais, d'abord, l'État congolais doit commencer par créer des emplois. Lui, l'État. Parce que si les privés viennent, s'ils maltraitent leurs employés, maintenant les privés peuvent aller chez l'État. Le député Mouindo, lui, il peut commencer par donner une partie de son salaire à l'État. Comme ça, l'État va créer de l'emploi. On va prendre tout le monde. Je vois très mal là où il y a l'insécurité sociale. On paye un député 6 000 $ au moment où on paye un enseignant 100 $. C'est vraiment
difficile. Voilà, malheureusement.
Deuxième recommandation, oui, je vais dire que.
Oui, Joséphine.
Quand il vient au cours.
Madame Joséphine, on ne saura pas aller plus loin parce qu'il y a ces deux minutes, le temps d'accorder la parole à notre invité également pour la conclusion, hein, c'est avec une partie remise. Merci beaucoup, Madame Joséphine. Alors, honorable Mouindo, on va quand même conclure. Hein, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai, bon, il y a quand même de la passion, hein, aussi beaucoup d'appréhension par rapport à ce débat. Qu'est-ce qu'on peut retenir pour vous? Il y a des recommandations. Vous attendez qu'une commission soit mise sur pied et pour faire le suivi.
Oui, je suis très content de toutes les interventions de diverses personnes. personne. Je suis venu mettre Dominique, j'en dis, je suis venu de Boston, tout ce que je sais dire à ça. Et ce qu'il faut retenir, c'est que notre combat est d'abord celui de permettre, c'est que les Congolais reviennent à leurs droits. Notre combat est celui de permettre à ce qu'il y ait des emplois créés, mais des emplois existants doivent être sécurisés. Notre combat est celui de permettre à ce que la loi soit respectée à travers les contrôles, à travers la légifération de toutes les lois qui doivent être faites, mais aussi responsabiliser les acteurs clés dans les secteurs, notamment une convocation des syndicales, notamment on doit arriver, n'est-ce pas, à ne pas toujours exiger une expérience de 5 ans à toutes ces personnes, alors que cela n'est pas légal. La loi prévoit ce qui est un test pour tout
les engagés dans son rencontre tripartite, oui. Notre patronat, le gouvernement et l'intersyndicat.
Évidemment, donc c'est la responsabilité du gouvernement et cela doit être fait. Et nous espérons bien qu'une enquête va être mise en place incessamment par le Parlement.
Merci beaucoup, l'honorable Paul Mouindo, député national élu de Béni Territoire, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté gentiment de partager cet échange citoyen avec les auditeurs ici au pays et ceux qui nous ont suivis à l'étranger. On ne va pas se quitter sans dire merci à toutes les équipe de production qui a concouru à la réalisation de cette émission. Dominique Ndoué était à la mise en onde. Julie Pézabongonda au standard et à la réalisation de cette émission, supervisée par Martin Sebouzangé, une émission qui vous a été coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur Okapi.